3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. When the going gets tough, the tough get going, 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 going. Plus de 7 milliards de romans vendus dans le monde depuis sa création, et ce, à travers plus de 150 pays, le roman Harlequin, qui est actuellement distribué dans plus de 31 langues différentes, naît en 1948 au Canada, plus précisément à Winnipeg, au Manitoba, avec la publication de son premier roman, intitulé The Manatee, de l'auteur Nancy Bruff. Spécialisée dans les romans d'amour, cette maison d'édition, qui transportera sa maison-mère à Toronto à la fin des années 1960, fut créée par Richard Bonnycastle, un avocat commerçant de fourrures et aventurier canadien qui s'associera alors avec Doug Weld de Bryant Press ainsi qu'avec Jack Palmer, alors chef du distributeur canadien du Saturday Evening Post et du Ladies Home Journal. Bonnycastle créera la toute nouvelle maison d'édition comme un moyen d'occuper les presses en tout temps de la compagnie Winnipeg's Advocate Printers pour laquelle il travaillait, réimprimant des romans de poche à faible coût, la compagnie se concentrant initialement sur la fiction policière, les westerns et les livres de cuisine, bien que quelques livres originaux furent également publiés. Même si la nouvelle société réalisait de solides ventes au cours de ses premières années, les marges bénéficiaires étaient limitées et l'entreprise avait du mal à rester solvable. Après la mort de Palmer au milieu des années 50, Bonnycastle obtiendra plus de 25% additionnel des parts de la compagnie et deviendra alors son seul propriétaire suite au départ de Weld, transférant les 25% des parts de l'entreprise de Weld à sa secrétaire, Ruth Palmer. Sous la direction de Bonnycastle, la fortune de l'entreprise commencera à changer. En 1954, le rédacteur en chef de la société décédera d'une crise cardiaque et l'épouse de Bonnycastle prendra alors ses fonctions, celle-ci aimant lire les romans d'amour publiés par l'éditeur britannique Mills & Boon. Croyant qu'il existait un marché pour ce genre de littérature au Canada et aux États-Unis, Mary Bonnycastle signera alors un accord en 1957 permettant à la compagnie Harlequin de devenir le distributeur nord-américain exclusif des romans d'amour de Mills & Boon. Une décision qui changera alors complètement la trajectoire de la maison d'édition qui achètera au final Mills & Boon le 1er octobre 1971. Dans cet univers de romans d'amour et d'aventure, ce sera l'auteur de littérature romantique Joan Wilder qui sera le point central de notre programme double d'aujourd'hui, alors que nous suivrons ses aventures et surtout sa rencontre avec l'aventurier Jack Colton, dont elle fera la connaissance lorsqu'elle se rendra en Colombie afin de sauver sa sœur des mains de deux chasseurs de trésors qui l'avaient pris en otage. Donc, Préparez-vous à mettre de côté votre créativité littéraire et partir aveuglément à l'aventure, alors que je vous parlerai aujourd'hui des films Romancing the Stone et The Jewel of the Nile, deux longs-métrages qui nous montrent que l'amour a besoin de piquant pour survivre et que la vraie vie n'a absolument rien de comparable avec le monde de la littérature.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
Sneaking out to the drive-in? Why not take the kiddies along and save the expense of a sitter? Everyone enjoys the drive-in.
Good evening, folks, and a hearty welcome to our drive-in theater. We have a wonderful evening's entertainment lined up for you, one that will provide several hours of pleasurable relaxation and diversion for you and your family. Did you fail to dress up for tonight's show? No tie, an old shirt and slacks, a house dress? Well, don't give it a thought. We're glad you came as you are. We just want you to enjoy yourselves. Don't forget to visit our refreshment center during the intermission or any time.
Attention, please. A $50 reward will be paid for information leading to the arrest and conviction of anyone caught stealing our speakers. If you accidentally pull a speaker loose, don't worry. Just turn it in. There is no charge, and we'd appreciate it.
The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime.
Out of life. Go out to a movie.
I'm getting out of this jungle dump. I am fed up to here with this treasure hunt business. Yeah. Ira, you miserable worm, you lied to me. You said she was a city girl, out of her element. Just get her and the map and bring them back. Piece of cake. Piece of cake, my butt. What went wrong? I'll tell you what went wrong. First of all, guess who else is here? You're dead right, Solo.
What?
Secondly, she's got herself a partner who likes shooting holes in everything.
The minimum price for taking a stranded woman to a telephone is $400.
$375 in traveler's checks?
Not a deal.
That's just the beginning of what's going on down here. There's nothing you can say that'll make me go back into that hellhole. Don't bring that up, Ira. Ira, stop it! All right, I'll go back. But this time, you're coming with me.
Romancing the Stone, ou À la poursuite du diamant vert, est un drame d'aventure qui a été distribué par les studios 20th Century Fox le 30 mars 1984. Ce film américain et mexicain, d'une durée de 106 minutes, a coûté 10 millions de dollars à produire et a amassé plus de 115,1 millions de dollars à travers le monde entier. À la chaise du réalisateur, on y retrouve le réalisateur américain Robert Zemeckis, le réalisateur qui nous avait donné les films Back to the Future, Forrest Gump et Who Framed Roger Rabbit. Au niveau de la production, on y retrouve le producteur américain Michael Douglas, lui qui avait produit les films One Flew Over the Cuckoo's Nest et The China Syndrome. Et finalement, ce sera Diane Thomas, cette scénariste américaine, elle qui avait travaillé sur les films Always et The Jewel of the Nile. Au niveau de la distribution, on y retrouve les comédiens Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito, Zach Norman, Alfonso Arau, Manuel Ojeda, Olin Taylor et Mary Ellen Trainer. Une romancière se rend en Colombie pour secourir sa sœur, enlevée par des bandits, et fait la connaissance d'un aventurier au tempérament détestable qui l'aidera alors à retrouver un trésor fabuleux. En 1978, une serveuse travaillant dans le restaurant Coral Beach Cantina de Malibu, Diane Thomas, rêvait de devenir scénariste et de percer à Hollywood. Cette dernière écrira alors un scénario intitulé « The Savage Hunt ». Il faudra moins d'une semaine à son agent, Norman Curlin, pour vendre le scénario à l'acteur-producteur Michael Douglas et à la compagnie Columbia Pictures pour un montant de plus de 250 000 $ Douglas ayant incité Columbia Pictures à payer pour les droits cinématographiques en lien avec un accord de financement signé entre le studio et la société semi-indépendante de Douglas, Big Stick Productions, en 1979. La première action de Douglas sera alors de changer le titre pour mieux refléter les éléments romantiques du film. Par la suite, Douglas fut chargé par Columbia de recruter des acteurs de premier plan tels que Clint Eastwood, Paul Newman, Jack Nicholson ou Burt Reynolds pour le rôle principal, et lorsque ces étoiles refusèrent le poste, la maison de production Columbia perdra alors tout intérêt pour le projet. Comprenant qu'il n'y avait pas d'avenir pour le film à la Columbia, l'acteur-producteur honorera son contrat de 4 ans au studio et mettra sur les tablettes le scénario. Lorsque son contrat expira en 1983, Douglas et son partenaire d'affaires, Jack Brodsky, apportèrent le scénario au studio de la 20th Century Fox Film Corporation, les exécutifs acceptant sur le coup de reprendre le projet à la lumière du récent succès du film d'aventure Raiders of the Lost Ark du réalisateur américain Steven Spielberg. La prochaine tâche de Douglas sera de trouver son réalisateur et celui-ci portera alors son attention au metteur en scène Robert Zemeckis, dont le travail sur la comédie Used Car avait attiré son attention et ce, malgré une contre-performance au box-office. Après un dur combat avec les exécutifs de la Fox, Zemeckis obtiendra le poste convoité. Le scénario subira par la suite plusieurs revisions avant sa version finale, la production se concentrant alors sur la création d'un équilibre entre l'action, la comédie et la romance. Pour la distribution, Douglas cherchera à obtenir les services de l'acteur Christopher Reeve pour le rôle de Jack Colton, mais ce dernier refusera le poste. Sylvester Stallone sera par la suite considéré, mais la décision sera prise de demander à Douglas d'interpréter lui-même le personnage haut en couleur, ce qu'acceptera le producteur. Pour le rôle féminin, le premier choix des studios fut l'actrice Debra Winger, actrice qui a obtenu une nomination aux Oscars pour sa prestation dans le film Terms of Endearment un an auparavant. Cependant, selon Douglas, un dîner au cours duquel il devait lui offrir le rôle s'est déroulé de manière désastreuse lorsque celle-ci le mordra. De plus, les producteurs ne pouvaient obtenir de réponse directe quant à savoir si elle était engagée ou non, et ces derniers avaient des inquiétudes après avoir vu à quel point le tournage allait être difficile, le réalisateur ayant besoin de quelqu'un qui saura se donner pleinement au projet. Par la suite, Sally Field fut approchée, mais cette dernière refusera le rôle. Ce sera finalement Kathleen Turner qui sera choisie, après s'être rendue au domicile du président de la 20th Century Fox, Joe Wizen, ce dernier étant fort impressionné par son apparence. Ce sera lui, d'ailleurs, qui la suggérera à Douglas lors d'une réunion de casting le lendemain. Turner avait récemment reçu des critiques très élogieuses pour son rôle dans Body Heat et The Man with Two Brains. Pour le rôle de Ralph, Zemeckis désirait l'acteur Bob Hoskins, mais ce dernier refusera l'offre. Ce sera donc finalement Danny DeVito qui sera choisi. Hoskins et Zemeckis travailleront finalement ensemble quelques années plus tard pour le film Who Framed Roger Rabbit. Le tournage principal débutera le 11 juillet 1983 dans divers endroits du Mexique, notamment à Veracruz, Xalapa et Mexico, puis finalement se rendra à New York. Plus de 14 semaines seront nécessaires pour le tournage complet, la séquence western au début du film étant tournée dans le parc national de Zion, en Utah. Au Mexique, cependant, les conditions deviendront dangereuses durant le tournage qui se situera durant la saison des pluies. D'ailleurs, Kathleen Turner aura de terribles disputes avec le réalisateur, la comédienne trouvant que Zemeckis était plus fasciné par les caméras et les effets spéciaux qu'à ses acteurs, n'étant point capable, d'après elle, de l'aider à adapter son jeu à certains plans de caméra. À un certain moment, Turner subira plusieurs blessures, notamment à l'une de ses jambes, qui sera éraflée sérieusement par une coulée de boue, ce qui l'amènera alors à poursuivre la production en justice pour que ces derniers couvrent les frais de chirurgie plastique. Malgré leurs différends, Zemeckis réembauchera Turner pour que cette dernière prête sa voix au personnage de Jessica Rabbit 4 ans plus tard dans son film Who Framed Roger Rabbit. Dans la séquence où le personnage de Michael Douglas, Jack Coltrane, attrape la queue d'un alligator qui avait ingurgité le fameux diamant vert, le reptile donnera alors 2 puissants coups de queue au visage de l'acteur qui tombera alors sonné. Par chance, les dresseurs avaient attaché la mâchoire de l'animal qui décidera alors de plonger dans l'eau pour fuir le plateau. Après l'avoir retrouvé, les deux entraîneurs prendront un bateau jusqu'à l'endroit où se trouvait l'alligator et se jetteront dans l'eau afin de retrouver l'animal sans savoir que ce dernier avait libéré sa gueule. C'est alors que l'animal s'attaquera à la main de l'un des dresseurs, l'autre se précipitant rapidement pour ouvrir la gueule de l'animal pour sauver son confrère. Le blessé sera alors transporté d'urgence à l'hôpital, sa main ayant été mutilée. Pour la séquence, dans laquelle les personnages de Joan et de Jack sautent d'une voiture alors qu'elle traverse une cascade de 70 pieds, Zemeckis tournera la scène avec plus de 5 caméras. Filmant la séquence en une seule journée, il faudra tout de même plus de 5 jours à l'équipe des effets spéciaux pour transporter le matériel nécessaire à la production sur place et pour préparer le plan, construisant une rampe en bois à l'embouchure de la cascade dans une zone qui n'était pas visible pour la caméra. Le véhicule fut rempli de mousse de polystyrène et de chambres à air, alors que les cascadeurs qui se tenaient à l'extérieur du véhicule sur des rampes sautaient à l'unisson. La façon que fut filmée la séquence donnera alors l'impression que les cascadeurs étaient proches du véhicule, alors que ces derniers se trouvaient en réalité à plus de 10 mètres pour leur sécurité. Une fois le tournage terminé, le film subira un premier montage et aura alors son premier visionnement qui surviendra entre Douglas, Zemeckis et les exécutifs de la 20th Century Fox. Il deviendra évident dans ce visionnement qu'il fallait retourner certaines séquences additionnelles pour améliorer l'histoire de Joan Wilder, ce qui amènera à des reshoots de scènes qui seront présentées au début du long-métrage où Joan est dans son appartement en train d'écrire seule. Cependant, les exécutifs ne furent pas très emballés par ce qu'ils verront, allant même jusqu'à licencier Zemeckis de son projet pour le studio, soit la comédie de science-fiction Cocoon, projet qui sera alors confié au réalisateur Ron Howard. Cette décision fut prise alors qu'une personne responsable de la production chez Fox avait prétendu aux hauts dirigeants de la compagnie que le tournage était hors de contrôle et que Zemeckis ne savait pas ce qu'il faisait. Après avoir vu le film complété, les exécutifs chercheront à réembaucher le metteur en scène pour Cocoon, mais celui-ci refusera et se tournera en direction du producteur Steven Spielberg pour la réalisation de la comédie de science-fiction Back to the Future. Romancing the Stone marquera la toute première fois où le compositeur Alan Silvestri et le réalisateur Robert Zemeckis travailleront ensemble, Silvestri étant d'abord embauché pour une musique temporaire pour le film avant de devenir le compositeur attitré à la production lorsque Zemeckis tombera en amour avec le travail effectué jusqu'à présent. Les deux hommes développeront par la suite une véritable relation d'affaires, travaillant sur une multitude de projets, dont Forrest Gump, Castaway, la trilogie des Back to the Future, Who Framed Roger Rabbit, Death Becomes Her et Contact. Quant aux dirigeants de la 20th Century Fox, ceux-ci s'attendaient à ce que le film Romancing the Stone soit un échec cuisant au box-office, mettant alors de la pression sur le jeune réalisateur pour que la production soit terminée rapidement et que le long-métrage soit diffusé avant la sortie d'Indiana Jones and the Temple of Doom, craignant que le film de Spielberg n'enlève toute chance à leur film d'amasser assez d'argent pour rembourser au moins l'investissement réalisé. Alors que le second film de la franchise d'Indiana Jones devait sortir en salle fin mai, Romancing the Stone sera diffusé à la fin mars et bien que les studios 20th Century Fox aient minimisé l'élément romantique du film dans sa campagne de marketing, le long métrage recevra des critiques très positives et remportera un grand succès au box-office. Le film sera présenté en première mondiale le 29 mars 1984 au Theatre Eugene O'Neill lors d'une célébration marquant le 20e anniversaire du centre. Par la suite, le film d'aventure amassera plus de 35 millions de dollars au cours de ses 30 premiers jours de sa sortie, terminant sa course en salle en rapportant plus de 76,5 millions de dollars au box-office américain et plus de 115 millions de dollars à travers le monde entier. 20th Century Fox s'associera alors avec la maison d'édition Avon Books pour publier une romanisation du long-métrage, livre qui sera alors publié à plus d'un million d'exemplaires aux États-Unis. Ce sera l'auteur Catherine Lanigan qui écrira le roman sous le pseudo-nom de Joan Wilder, le nom de l'héroïne de Romancing the Stone. Le film sera nominé pour un Oscar dans la catégorie du meilleur montage de film ainsi que du meilleur scénario et obtiendra deux prix au Golden Globe, soit le meilleur film musical ou comique ainsi que meilleure actrice. Le film remportera également le prix de la meilleure actrice au Los Angeles Film Critics Association Awards, le prix pour meilleur montage sonore au Golden Reel Award ainsi que le prix pour la cascade la plus spectaculaire durant ce même événement. Malheureusement, la scénariste de Romancing the Stone, Diane Thomas, décédera 6 semaines avant la sortie de la suite de son film, soit The Jewel of the Nile. Thomas est décédée dans un accident de voiture en octobre 1985, cette dernière se trouvant alors comme passagère d'une Porsche que Michael Douglas lui avait achetée comme cadeau pour son travail avec lui sur le film. Elle, son compagnon et un de leurs amis s'étaient arrêtés pour prendre un verre. Parce que son petit ami était celui qui avait le moins bu dans le groupe, ce sera lui qui pilotera la voiture qui fera alors un tête-à-queue sur le Pacific Coast Highway, alors mouillé par la pluie, et heurtera un poteau téléphonique au sud de Coastline Drive, près de Topanga, en Californie. Thomas sera alors tué sur le coup. L'ami du couple, Ian Young, décédera des suites de ses blessures 2 heures plus tard, alors que le petit ami de Thomas sera hospitalisé pour des blessures internes et sera par la suite arrêté pour conduite sous influence de l'alcool. Avant sa mort soudaine, Thomas travaillait sur une suite à Indiana Jones and the Temple of Doom, ainsi que sur le scénario du film Always, qui sortira finalement en salle en 1989, raison pour laquelle elle ne sera pas disponible pour l'écriture du film Jewel of the Nile. Thomas avait écrit un seul autre scénario avant son décès, soit Blonde Hurricane, adaptation du livre de l'auteur Geno Retschto, connu sous le pseudonyme de P. Howard, scénario qui ne sera malheureusement jamais adapté. L'actrice Kimberly Ellen Herron, un mannequin et actrice américaine qui interprétera le personnage féminin dans la scène d'introduction de Romancing the Stone, ainsi que le fantôme de la femme flottant au-dessus du lit de Ray Stantz dans le rêve de celui-ci dans le film Ghostbusters, perdra la vie le 28 octobre 2022 à l'âge de 65 ans des suites d'un cancer. En décembre 2008, les studios 20th Century Fox embaucheront Danielle McDermott pour écrire un remake du long-métrage de Romancing the Stone. 3 ans plus tard, ce sera le poste de télévision NBC qui développera un projet de télévision adapté du film avec l'aide de Sean Levi et des compagnies 21st Laps, Alderstein Production et 20th Century Fox Television. Mark Friedman sera alors embauché pour écrire le scénario de ce nouveau projet qui devait être réalisé par Levi lui-même. Lorsque Levi quittera la production, ce sera alors la productrice Emma Watts qui deviendra responsable du projet, cette dernière se retournant alors vers le réalisateur Robert Luketic, ce qui a conduit Catherine Heigl à devenir l'actrice pressentie pour interpréter le personnage de Joan Wilder. Alors que Taylor Kirchht et Gerald Butler seront approchés pour le rôle de Jack, le projet n'aboutira jamais et lorsque la Fox sera rachetée par Disney, les hauts dirigeants de l'entreprise décideront de mettre de côté le projet, considérant que le public ne serait pas vraiment intéressé par le retour de Jack Colton et de John Wilder. En 2022, Paramount Pictures sortira en salle le film The Lost City, qui mettra en vedette Sandra Bullock et Channing Tatum, une sorte de remake non officiel du film de Zemeckis. Romancing the Stone sera le film qui propulsera la carrière de ses trois vedettes principales, soit Michael Douglas, Kathleen Turner et Danny DeVito, tout comme celle de son réalisateur Robert Zemeckis et finalement du compositeur de musique de film, Alan Silverstreet. Du côté des points forts, eh bien, Romancing the Stone est une comédie d'aventure qui semble prendre son inspiration directement de Raiders of the Lost Ark de Steven Spielberg. La mise en scène de Zemeckis est dynamique et rend hommage, tout comme Raiders, à ses anciens serials du samedi matin, du cinéma et de la radio du début du 20e siècle. Le long métrage bénéficie d'une assez bonne distribution qui repose principalement sur la chimie amusante et parfaite entre la vulnérabilité de Kathleen Turner et l'anti-héroïsme de Michael Douglas. DeVito est ici la pièce humoristique parfaite pour mettre des bâtons dans les roues de nos héros et sa prestation est hilarante, n'ayant pas peur d'utiliser sa petite taille pour amuser l'auditoire. Le scénario mélange astucieusement les recettes du genre, soit l'action, l'humour et le romantisme, et ce, avec un assez bon rythme et des scènes d'action tout de même assez efficaces. Le long métrage possède une très belle photographie, profitant au maximum des luxueux paysages mexicains et est également une excellente satire des romans harlequins qui imagine bien le genre d'image qui est démontré dans ce genre de littérature. Mais du côté des points faibles, eh bien, les personnages dans l'histoire sont extrêmement caricaturaux et ne sont pas vraiment bien développés, notamment le personnage du colonel Zodo, dont on ne comprend pas vraiment les véritables raisons derrière sa quête du diamant vert. Contrairement à Indiana Jones, Romancing the Stone s'attarde plus à son histoire, son humour et à ses personnages en sacrifiant les scènes d'action spectaculaires, ce qui enlève d'une certaine façon un certain momentum au long métrage qui en fait plus une sorte de réplique des films d'aventure traditionnels des années 30, 40 ou même 50. Finalement, les dialogues sont par moments quelque peu simplistes, ce qui donne droit à une mise en scène très théâtrale qui, par chance, est tout de même rehaussée par une trame sonore originale du compositeur musical Alan Silverstreet. Au niveau de la trame sonore du film, eh bien, c'est le compositeur américain Alan Silverstreet qui s'est occupé de la composition musicale, lui qui a travaillé sur les films Castaway, Back to the Future Trilogy, Forrest Gump, The Abyss et The Bodyguard. Vous pouvez trouver la musique du film sur l'étiquette Varès Sarabande. C'est une trame sonore qui est sortie en édition limitée sur CD en 2002. Et vous avez également le Expanded Edition. Ça, c'est une édition limitée à seulement 2000 exemplaires qui a été sortie sous l'étiquette La La Land Records le 15 août 2017.
It's intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed. And all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now.
They're at the movies, it's a big date. They love their popcorn, look what they ate. This kind of action, the main attraction. Oh boy, ain't love grand. He's buying lots of goodies, ice cream, Pepsi, and peanuts too. Living on love's not easy. You need your strength to woo. Now he returns, what's this she yearns? Refreshing Pepsi, a kiss he earns. Romance and pleasure, and for good measure, thirst-quenching Pepsi, for those who think young.
Hotshot electric in-car heaters have been installed for your comfort and convenience. Just insert heater through car window and turn on the switch. When leaving, please turn switch off and replace on speaker post. Warning, high voltage. For your own safety, do not attempt to repair or remove wires. Do not attempt to open heater unit. If you need assistance, please notify the theater box office or concession manager.
I'm Rodeo Joe, big star of the show. Oh, I'm strong and I'm spry, yippee-yay, yippee-yay, 'cause I drink T-O-D-D-Y.
Yes, Toddy, the chocolate malt in a can that tastes as good or better than the kind you get at your favorite soda fountain, made with rich, real milk, not powdered milk.
Man, oh man, it's toddy for me.
Me too.
Me three.
Yes, cold or hot, it hits the spot. So toddle to the bar, take it back to the car, get that chocolate malted toddy. Toddy pleases everybody.
Mmm, delicious.
We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show.
The Jewel of the Nile, ou le Diamant du Nil, est un drame d'aventure qui a été distribué par les studios 20th Century Fox le 11 décembre 1985. Ce film américain d'une durée de 107 minutes a coûté plus de 25 millions de dollars à produire et a amassé plus de 96,7 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Lewis Teague, lui qui nous avait donné les films Navy SEALs, Wedlock, Cat's Eye et Cujo. Au niveau du poste de producteur, c'est encore une fois l'acteur-producteur américain Michael Douglas qui a pris le poste, lui qui avait produit les films Flatliners, The Rainmaker et The Sentinel. Au niveau du scénario, eh bien, ce sont les scénaristes américains Mark Rosenthal, qui avait travaillé sur Superman 4, Quest for Peace et Mona Lisa Smile, ainsi que Lawrence Conner, lui qui a travaillé sur Flicka, The Sorcerer's Apprentice et Mercury Rising, qui ont écrit ici le film. Au niveau de la distribution, on y retrouve de nouveau Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito. Ils sont rejoints cette fois-ci par Spiros Fokas, Avner Eisenberg, Hamid Filali, Daniel Peacock, Holland Taylor et Guy Cuevas. Vivant des problèmes de couple, un aventurier se lance à la recherche de sa petite amie romancière qui a accepté l'offre d'un potentat arabe pour écrire la biographie de ce dernier sans savoir qu'il est en réalité un dangereux mégalomane qui cherche à convaincre diverses tribus à se lancer dans une guerre sainte. Le succès surprise de Romancing the Stone conduira les exécutifs de la 20th Century Fox à demander une suite. Cependant, ceux-ci désiraient que celle-ci se fasse le plus rapidement possible, ayant même placé une date de sortie sur leur calendrier, soit en décembre 1985, ne laissant que moins d'un an et demi pour la création, réalisation et post-production du futur long-métrage. Un autre problème de ce nouveau projet, personne n'était particulièrement enthousiaste à l'idée de revenir. Cependant, Michael Douglas, qui était également producteur, Danny DeVito et Kathleen Turner étaient tous liés contractuellement pour réaliser cette suite. Douglas se tournera alors vers la scénariste Diane Thomas, qui avait écrit le scénario du premier film, pour travailler sur ce nouveau volet des aventures de John Wilder et Jack Carlton, mais cette dernière travaillait déjà sur plusieurs autres projets avec le réalisateur Steven Spielberg et demanda un montant que Douglas considérait beaucoup trop élevé pour l'écriture de ce nouveau script. Ce sera finalement Mark Rosenthal et Lawrence Conner qui travaillaient à ce moment sur les films Star Trek VI « The Undiscovered Country » et Superman IV « The Quest for Peace » qui seront chargés de mettre rapidement en place le dit scénario. Au niveau de la réalisation, le metteur en scène Robert Zemeckis ne reviendra pas, ce dernier choisissant de travailler sur « Back to the Future ». Cela forcera Douglas à approcher le metteur en scène Leigh Whistig qui terminait alors son tournage du drame fantastique anthologique Cat's Eye. Jewel of the Nile sera un projet très différent de ceux que le réalisateur avait abordé auparavant, un projet qui ne se passera d'ailleurs pas sans embûches majeures. Lorsque le scénario sera complété, Turner, qui avait initialement négocié l'approbation du scénario avant qu'il ne soit accepté, tentera de se retirer du projet parce qu'elle trouvait le script horrible, stéréotypé et beaucoup trop sentimental. Ce sera à ce moment que les exécutifs de la 20th Century Fox menaceront de poursuivre l'actrice pour plus de 25 millions de dollars pour rupture de contrat. Douglas interviendra alors en son nom et demandera qu'une réécriture soit effectuée. Michael et son frère Joel Douglas, également producteurs du projet, demanderont alors aux scénaristes Ken Levine et David Isaac de retravailler le scénario, les deux hommes n'étant au final pas crédités pour leur travail. Kathleen Turner devait jouer dans The Money Pit, mais dut quitter le projet afin de remplir ses obligations avec la 20th Century Fox, laissant alors la place à l'actrice Shelley Long. Se rendant au Maroc, Turner lira la version finale du scénario et sera furieuse, la qualité du script n'étant toujours pas à un niveau acceptable pour elle. Rendue à l'hôtel à Fès, Turner contactera Douglas et les deux retravailleront le script avec l'aide de trois versions différentes. Environ deux semaines avant le début du tournage principal, un avion transportant le chef décorateur Richard Dawkins ainsi que le directeur de production Brian Coates s'écrasera lors d'un vol de repérage au-dessus de la campagne marocaine, tuant tous ceux à bord. Un total de six membres de la production décéderont dans ce tragique accident, incluant également l'assistant réalisateur de Leigh Whistig. C'est sous une ambiance mortuaire et colérique que débutera le tournage de Jewel of the Nile. En effet, alors que les veuves de tous ceux décédés dans cet accident d'avion cherchaient à rapatrier le corps de leur mari dans leur pays, Kathleen Turner était toujours déçue du scénario. Seule de Vito semblait remplie d'énergie, ce qui permettra à Douglas de passer à travers ce qui commençait à devenir une production des plus cauchemardesques. Avec un budget variant entre 18 et 21 millions de dollars, le tournage aura lieu à Villefranche-sur-Mer et au Palais des festivals et des congrès à Cannes, en France, à Ait Benhadou, près de Ouarzazate, ainsi qu'à Meknès, au Maroc, et au Zion National Park, à Springdale, au Utah. Ce sera le directeur de la photographie, Jan de Bont, qui s'occupera ici du visuel du long-métrage, qui ne connaîtra pas vraiment de difficultés en France. Mais lorsque les acteurs et l'équipe de production atterriront en Afrique du Nord, les problèmes surgiront rapidement. Tout d'abord, les douanes locales retiendront les bobines de films et plusieurs équipements jusqu'à ce que des pots de vin soient payés à certains fonctionnaires pour faire passer le matériel au-delà des douanes locales. De plus, la température, qui atteindra une chaleur insupportable, sera suivie de plus de 8 jours de pluie torrentielle qui étaient survenues soudainement après plus de 6 années de sécheresse. Ces pluies détruiront alors de nombreux décors, ce qui provoquera des délais et un dépassement de budget de production. Puis, surviendra le début du Ramadan qui entraîna un jeûne de plus de 30 jours, touchant les quelques 2000 acteurs et figurants ainsi que les techniciens de l'endroit, ce qui entraînera d'énormes tensions avec l'équipe de production hollywoodienne. D'ailleurs, il y aura régulièrement des affrontements entre l'équipe américaine et marocaine, Douglas devenant particulièrement frustré par le manque de compétences et les plaintes continuelles de l'équipe marocaine et n'hésitant pas à licencier tous ceux qui, selon lui, ne faisaient pas leur part et faisaient des demandes déraisonnables. Mais le plus inquiétant surviendra lorsque Douglas se rendra compte que son réalisateur, Leigh Whistig, qui avait l'habitude de travailler sur des petites productions, commençaient à montrer qu'ils n'étaient pas nécessairement à la hauteur de la tâche pour la réalisation d'un film d'action à grand déploiement, notamment avec la pression des studios 20th Century Fox pour un tournage des plus rapides. D'ailleurs, un incident surviendra lors du tournage d'une scène nocturne complexe qui mit des heures à être mis en place, mais ce n'est qu'une fois le travail terminé que quelqu'un remarquera qu'il n'y avait pas de film dans les caméras. Il faudra retrouver la pellicule, mais ce délai reportera alors le tournage de la scène plus de 24 heures plus tard. Pas nécessaire de spécifier que Douglas, le producteur, n'était tout simplement pas enchanté de cette situation. Finalement, à 3 jours de la fin du tournage, Douglas verra un grand nombre des membres de son équipe de production tomber mystérieusement malades et ceux-ci seront alors diagnostiqués par les autorités sanitaires marocaines comme souffrant d'hépatite et condamnés à se soumettre à une quarantaine de 6 semaines, à moins qu'un pot de vin de 2,5 millions de dollars ne soit payé. Douglas n'aura d'autre choix que de payer, découvrant par la suite que ceux-ci avaient été victimes d'une intoxication alimentaire. La production quitta finalement le Maroc avec un dépassement de production de plus de 3 semaines et un budget qui avait alors explosé à plus de 25 millions de dollars. Le tournage s'achèvera le 25 juillet 1985. Juste avant la fin de la production, l'avion transportant Michael Douglas et Kathleen Turner subira un accident lorsque l'aile du véhicule heurtera la piste lors d'un atterrissage brutal au Maroc, donnant ainsi toute une frayeur aux deux acteurs. Mais une tragédie restera à survenir. En effet, en octobre, la scénariste Diane Thomas, auteure à l'origine responsable de l'écriture du scénario du film original Romancing the Stone, ne verra finalement pas les nouvelles aventures de sa création, cette dernière décédant dans un terrible accident de voiture. Étant occupé sur la composition de la musique du film Back to the Future, Silvestri sera alors remplacé par le compositeur Jack Nitzsche. Pour la chanson « When the going gets tough, the tough gets going », qui fut interprétée par le chanteur Billy Ocean, Kathleen Turner, Michael Douglas et Danny DeVito apparaîtront dans le vidéo de la chanson en tant que chanteurs en arrière-plan. Ce vidéoclip fut alors interdit au Royaume-Uni car Turner, Douglas et DeVito ne faisaient pas partie du syndicat des musiciens. Malgré cela, la chanson deviendra un hit au niveau international, atteignant le numéro 1 en Angleterre et le numéro 2 aux États-Unis de la charte des chansons les plus populaires. Le long-métrage terminé sera diffusé sur plus de 1100 écrans en Amérique du Nord en décembre 1985 et plus de 1500 écrans le jour de Noël. The Jewel of the Nile reçut des critiques décentes et le film amassera presque les revenus de Romancing the Stone, sortant en salle presque au même moment qu'un autre film qui mettait en vedette Michael Douglas, soit A Chorus Line. Les hauts dirigeants de la 20th Century Fox demanderont qu'une nouvelle suite soit envisagée, suite qui devait être intitulée The Crimson Eagle et qui devait de nouveau mettre en vedette Douglas, Turner et DeVito. Dans ce nouveau film, l'histoire devait transporter nos deux héros en Thaïlande avec leurs 2 enfants adolescents où ils deviendront victimes de chantage pour qu'ils volent une statue inestimable. Le projet stagnera jusqu'en 1997 alors que Douglas, en tant que producteur, annoncera qu'aucun des 3 membres principaux de la distribution n'était intéressé à revenir. Malgré cela, Douglas reviendra à la charge en 2005 pour une nouvelle entrée dans la franchise, film qui devrait s'intituler « Racing the Monsoon ». Cependant, le projet sera annulé lorsque la Fox décidera de retravailler le projet en série télé en 2011 avec le poste de télévision NBC. The Jewel of the Nile aura une novélisation qui sera de nouveau écrite par l'auteur Catherine Lanigan sous le nom de plume de Joan Wilder, le personnage interprété par Kathleen Turner. Quant au trio de Douglas, Turner et DeVito, les 3 vedettes seront de nouveau impliquées dans une nouvelle production, une comédie noire intitulée « The War of the Roses ». Sorti en salle en 1989, ce film, bien qu'il ne s'agisse pas d'une suite à « Jewel of the Nile », saura satisfaire les fans de la franchise, permettant ainsi à ceux-ci de clore l'histoire de 2 tourtereaux d'une manière sombre et loufoque. Les 3 comédiens travailleront de nouveau ensemble sur une série de Netflix « The Kominsky Method » qui sera diffusée entre 2018 et 2021. La veuve du directeur artistique Richard Dawkins intentera une action de 3 millions de dollars en justice contre la 20th Century Fox pour négligence ayant causé la mort de son mari, ainsi que la Stone Group et finalement Michael Douglas. cette cause sera alors réglée hors cour. Le film sera d'ailleurs dédié à la mémoire de Dawkins ainsi que celle de Brian Coates et de la scénariste Diane Thomas. Du côté des points forts, eh bien, de nouveau, ce second volet des aventures de l'auteur John Wilder et de l'aventurier Jack Colton est saupoudré de péripéties extravagantes, le tout entremêlé d'une bonne dose d'humour. Encore une fois, la distribution est au rendez-vous, en pleine forme, notamment Danny DeVito, qui semble bien s'amuser ici, et Avner Heisenberg, qui est tout simplement délicieux dans le rôle du joyau du Nil. Kathleen Turner est toujours aussi attachante dans son rôle de Wilder, alors que Michael Douglas continue à jouer son personnage d'aventurier détestable avec assurance. Mais, du côté des points faibles, eh bien, tout comme notre couple d'aventuriers, la magie a tout simplement disparu ici, laissant place à un scénario faible dont l'histoire est artificielle et conventionnelle. L'on peut voir ici les limites du réalisateur au niveau du visuel, ce dernier étant plus habitué à un cadrage style télévision qu'à un visuel cinématographique, ce qui nous donne une photographie nettement en dessous du film original. Les effets spéciaux sont parfois inégaux et l'on a totalement mis de côté l'aspect romantique des romans harlequins au détriment des scènes d'action. Le personnage de Colton est irritant ici, alors que celui de Wilder se laisse facilement berner, le vilain jouant sur sa naïveté, une naïveté que l'on pensait que le personnage aurait pu perdre suite au premier film. Au final, malgré de nombreux défauts, The Jewel of the Nile est tout de même un bon divertissement, malgré ses quelques longueurs. Au niveau de la composition musicale, eh bien, c'est le compositeur américain Jack Nitzsche, lui qui avait travaillé sur les trames sonores de Nine and a Half Weeks, Stand By Me, The Seventh Sign, Revenge et The Indian Summer, trame sonore que l'on peut retrouver sous l'étiquette Arista, qui fut sortie en CD et en cassette audio 4 pistes en 1985, et dont il y aura également une édition limitée de 2500 exemplaires sous l'étiquette La La Land, une trame sonore qui sortira sur le marché le 13 juillet 2018. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film Romancing the Stone 4. J'y vais également avec une cote 4. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma a coté le film général. J'y vais également avec une cote pour tous, malgré certaines scènes de violence et de langage vulgaire. Du côté de The Jewel of the Nile, eh bien, Mediafilm a coté le film 4. Moi, j'y vais plus avec une cote 5. On voit ici que la qualité de film est beaucoup moindre que Romancing the Stone. Au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma cote le film général. J'y vais également avec une cote pour tous, malgré encore là des scènes de violence et un langage vulgaire. Mais disons que c'est un film qui s'écoute plus facilement pour un jeune auditoire que Romancing the Stone. Au niveau de la disponibilité en DVD et en Blu-ray disc, eh bien, le film Romancing the Stone est disponible en français et en anglais, en DVD et en Blu-ray. Donc, ça, c'est quelque chose que vous êtes capable de trouver sans grande difficulté. Vous êtes également capable de trouver en DVD et en Blu-ray l'édition deux disques de Romancing the Stone et Jewel of the Nile. C'est comme un double pack, donc les deux sont ensemble. Cependant, ce n'est qu'en version anglaise seulement. Et vous avez une édition spéciale deux disques de Jewel of the Nile qui est sortie, je vous dirais, et en DVD et en Blu-ray disc et qui est présentement sur le marché également. Du côté de Jewel of the Nile, eh bien, le film est également disponible en français et en anglais en DVD et en Blu-ray disc. Comme je disais tantôt, vous êtes capable de trouver des éditions doubles où vous avez les deux films sur le même DVD, que ce soit en DVD ou en Blu-ray, mais il n'existe pas d'autres éditions spéciales du film de Jewel of the Nile.
Ladies and gentlemen, our next attraction!
Coming soon to a theater near you.
Chicago, wow, man. So what do you do there?
We danced our asses off.
Hey, you the new kid? You won't get any out here.
What's that?
Dancing, there's no dancing. If our Lord wasn't testing us, how would you account for the proliferation these days of this rock and roll music?
You really can't dance here, man.
You're playing it kind of loud, weren't you?
Is there a law against loud music?
Let's watch that attitude, boy.
Going over the state line. I want you guys to see what you've all been missing.
You just seem to be having a lot of trouble since you moved here. But it seems a lot of people are pointing a finger in your direction lately.
You know, I'm busting my balls trying to fit in here, and every door is getting slammed in my face.
Because I've heard he's a troublemaker.
Just because he hasn't lived in this town for 20 years doesn't make him a troublemaker.
He's been here, and you're going to try and throw a dance.
There was a time for this law, but not anymore. See, this is our time to dance.
You gotta do what you gotta do. But that ain't gonna stop it from happening.
Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.